Tout ce que je sais du monde et de la littérature, je l'ai appris dans les préfaces des livres de poche. Les livres qui les suivent m'ont même souvent déçu. Je les ai trouvés plats, plats comme des marches et monotones. Des marches de bois pleines de cernes arrangées selon les lois les plus délicates, mais sans décrochement ni surprise. C'est là, au milieu d'elles, les mains posées sur le bois caressant que j'ai appris à lire. Dans l'escalier d'une maison à la porte en granit, près d'une longue allée couverte, aux menhirs eux aussi gravés de cernes inintelligibles. Et j'avais plaisir, incontestablement, à me perdre dans ce labyrinthe, tournant soigneusement la page tranchante de mes BD pour avancer dans l'histoire incompréhensible du Lotus Bleu ou dans celle du châtiment de Bazanneau. Je devais avoir rejoint, par contorsions successives et au gré des rebondissements de l'intrigue, la plus grande marche de l'escalier au milieu du virage, celle qui avait à peu près la forme d'un cercueil, et j'aurais pu mourir ici sans déplaisir si j'avais pu amener mes BD avec moi dans la vie éternelle, des BD dont on s'extasiait à chaque déménagement de la colonne toujours plus haute qu'elle formait et qui, mise à plat, aurait couvert plusieurs terrains de foot, voire la planète entière. Mais tout cela relevait encore du même niveau, de la même marche qui, même étirée vers des infinis paradisiaques, finirait par se répéter. Un jour, j'aurais lu tous les Tintins, tous les Johan et Pierre-Louis, tous les Jules Verne, et je devrais recommencer toujours, perspective qui, si elle ne me déplaisait pas, m'aurait fait manquer la grande injonction morale de ces récits qui prenaient une vie d'aventure. Ce n'est pas la marche, c'est la contre-marche qui fait la grandeur de l'escalier. Et la contre-marche, ce n'est pas les livres qui la définissent, mais la paratechnique, le paratexte, les préfaces et les notes qu'on a disposées autour. La contre-marche, c'est l'histoire littéraire telle qu'elle se donne, purifiée dans les préfaces des romans classiques, qui sont à chaque fois comme le résumé d'une vie de lettré. Comme la synthèse de plus d'un siècle d'articles passionnés dans les revues d'histoire littéraire, l'histoire littéraire non pas comme marche continue vers l'amélioration des livres, mais comme fabrication progressive d'un lecteur. C'est par les préfaces qu'on s'arrache à sa condition d'autodidacte, qu'on atteint, auteur après auteur et sans préjuger de leur valeur propre, des paliers dans sa compréhension du monde. J'ai mis longtemps à lire les préfaces, j'étais trop paresseux sans doute pour m'arracher à mon état de lecteur naïf, trop orgueilleux pour ne pas croire que j'avais un accès direct au texte parcouru. Je me souviens, ce fut l'une des premières d'une préface du procès de Kafka et de l'heureuse trahison de Max Brod qui n'avait pas détruit les manuscrits de son ami à sa mort. Je me souviens que les préfaces des Rougon-Macquart portaient alors le même nom que le président de la France et que cela contribuait à donner à l'ensemble son exhaustivité patriotique. Je me souviens d'avoir lu Sanctuaire de Faulkner uniquement à cause de la préface de Sartre. J'ai lu passionnément plus tard les recueils de préfaces de Borges et de Nabokov et je les tiens encore peut-être pour leurs meilleurs livres. J'ai découvert récemment un modèle du genre, peut-être son chef-d'œuvre, dans la préface de Starobinsky au Folio des lettres persanes, profonde comme du Léo Strauss. J'ai lu enfin les livres tardifs de Gras comme des recueils de préfaces imaginaires, comme les fragments d'un grand livre qui ne parlerait que de littérature, mais qui serait encore un roman. Car les préfaces ouvrent vers un autre monde qui n'est pas tout à fait celui du roman qu'on va lire. C'est un monde où seul importe l'histoire littéraire, un monde dont les lettrés sont les seuls héros, mais où ils seraient encore poussés par diverses contingences historiques à écrire quelques romans, quelques œuvres positives, à donner quelques gages au temps présent, à lui faire le cadeau d'une œuvre littéraire pour pouvoir exercer par la suite leur véritable vocation, celle de préfacier. Les préfaces comme une œuvre secrète, la seule qui compte, une œuvre de critique, d'évaluation inlassable de ce grand corps invisible qui longe l'histoire humaine sans se confondre tout à fait avec elle, qui tient lieu de philosophie de l'histoire et de dernier tribunal du temps, mais qui n'est que littérature et dont on arrive à percevoir l'existence qu'à l'occasion fugace d'une préface réussie, une préface réussie comme rare péripétie du temps, comme unique événement de l'histoire littéraire.